Bienvenue dans À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous trouverez ici toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Bonne écoute et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership.
Comment connaître les projets de Dieu pour soi ? La Bible dit, car je connais, dit Dieu, les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. Dans ce texte, Dieu dit ceci, les projets que j'ai pour toi sont tous des projets de paix, de bonheur et non de malheur, de paix. On va relire le texte. Projet de paix et non de
malheur.
Projet de paix et non de
malheur.
Damas, projet de paix et non de
malheur.
Il y a des gens qui sont ici et là-bas en même temps, vous êtes forts. Ça m'a interpellé. Parce que le texte, pendant longtemps, je l'ai lu ou je l'ai récité comme ça. Projet de bonheur et non de malheur. C'est pas ce que le texte dit. Projet de paix. Écoutez-moi. Dieu n'oppose pas le bonheur au malheur. Dieu oppose la paix au malheur. Ah. Le plus important pour Dieu, c'est pas que tu sois heureux, c'est que tu sois en paix. Quand tu es en paix, tu ne peux pas être dans le malheur. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez le bonheur au lieu de chercher la paix. La paix veut dire que tu es dans un environnement où on veut te faire détourner de l'argent. Tu sais que ça va affecter ta paix, même si on te propose de l'argent qui est supposé produire le bonheur, tu te dis non, ça coûte trop cher, ça va me coûter ma paix. Et ma paix n'est pas achetable, on ne peut pas acheter ma paix. Parce que si je n'ai plus la paix, je rentre automatiquement dans le malheur. Tu as du mal à découvrir où Dieu veut t'emmener. C'est parce que tu as du mal à reconnaître ce qui procure la paix. Ce n'est pas Dieu si au final tu ne dois pas avoir la paix. C'est la mauvaise connexion si ça t'enlève la paix. C'est la mauvaise relation si ça t'enlève la paix. C'est pas la bonne affaire si ça t'enlève la paix. Dieu n'est pas dedans si tu n'as pas la paix. Est-ce que je peux vous dire ça?
Amen.
Que quelqu'un dise la paix.
La paix.
Dis bien la paix.
La paix.
Encore une fois, la paix.
La paix.
Amen. Elle a commencé à saisir. Les gens ont commencé à saisir. La paix. Vous devez comprendre donc que Dieu a un objectif. Il dit, mes projets pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Parce que si toi tu suis l'argent, tu peux forfeit, tu peux laisser partir ta paix. Tu peux vendre ta paix. Fils de l'homme, là, Jésus qui dit, il dit quand vous rentrez dans un endroit, il dit si vous êtes bien reçu, laissez la paix. Laissez votre paix. Il dit, on l'appelle le prince de paix. Il dit, je vous donne la paix, non pas la paix que le monde donne. Il dit, ma paix, ma paix. Donc on ne veut pas la paix du monde, les amis. Parce que la paix du monde est basée sur les choses extérieures. La paix que Dieu donne est basée sur ce qui est à l'intérieur. Tu peux avoir la voiture mais ne pas avoir la paix. La maison mais ne pas avoir la paix. Le mariage mais ne pas avoir la paix. Les enfants et ne pas avoir la paix. Tu peux même mettre aux côtés des hommes d'affaires les plus grands et ne pas avoir la paix. Ta paix vaut mieux que tout. Que sert-il à un homme de gagner le monde si à la fin il doit perdre son âme? Ta paix. La course dans laquelle on est engagé, ce n'est pas la course pour les voitures, les maisons, non. C'est la course pour la paix. Il faut que tu sois en paix. Et tu as du mal à trouver Dieu parce que tu as perdu la paix. Projet de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. Quand Dieu t'appelle et quand Dieu te parle en termes de projet, ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas un passé. Dieu veut te donner un futur. Amen. Tu peux avoir eu un mauvais passé, mais si tu es avec Jésus, tu peux avoir un futur merveilleux. Tu n'as pas besoin d'être né dans la bonne famille. Tu as juste besoin d'avoir le bon Dieu. Tu as juste besoin d'avoir la bonne connexion. Tu as besoin de connaître qui il est. Il est capable de changer radicalement le cours de ta vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on peut avoir eu un mauvais départ, mais avoir une bonne fin. Tu ne peux pas reprendre tu ne peux pas recommencer depuis le début. Mais là où tu es, tu peux prendre la décision de commencer. Tu peux changer ta destination si tu prends un nouveau départ. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets de paix pour toi. Et Dieu va te donner un futur. Dis-lui, Dieu va te donner un futur. Dieu va te donner un futur. Pas un passé, Dieu va te donner un futur. La plupart des gens qui te méprisent, qui t'ignorent, qui te minimisent, le font sur la base du passé. Je dis merci Seigneur, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît mon futur.
Amen.
Les gens m'abandonnent sur le passé et le présent. Dieu reste avec moi à cause de mon futur.
Amen.
Ah, moi-même je vais faire mon offrande dans mon message. Parce que moi-même je vais faire l'offrande dans mon message. Jésus de Nazareth. Moi-même je suis béni. Tiens. Moi-même je suis béni par mon propre message. Non, c'était... Moi-même je suis béni. Moi-même je suis béni. C'est pour ça que je ne laisse personne être au contrôle de ma paix. Quelqu'un peut m'abandonner, ça me fait mal, mais ça ne m'enlève pas la paix. Parce que c'est si Jésus m'abandonne que je n'aurai plus la paix. Mais sauf que lui, il a dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Et docteur Luc, la raison pour laquelle lui, il ne m'abandonnera pas, c'est parce qu'il connaît. Il a vu mon futur. Tu sais, les gars nous ont laissés, les gens nous ont mal parlé, les gens nous ont minimisés sur la base de notre passé. Sur la base de notre présent, il faut marcher avec des gens qui ont un aperçu de ton futur. Parce que ce qui fait que quelqu'un ne te laisse pas, c'est pas ton passé, c'est pas ton présent. Au final, la personne ne te laisse pas parce qu'elle voit bien que tu ne t'arrêteras pas là où tu es. Oh, tu as un mauvais présent, mais tu auras un bon futur. Tu as un mauvais passé, mais tu auras un bon futur. La raison pour laquelle on reste ensemble, ce n'est pas à cause du chemin, c'est à cause de la destination. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mises d'accord au préalable? On se met d'accord sur quoi? Sur la destination. On va où ensemble? La raison pour laquelle on est ensemble, c'est parce qu'on va quelque part. On a vu ensemble, on s'est mis d'accord sur une destination. On s'est mis d'accord sur le futur. Pourquoi nous on ne part pas du Gabon? Pourquoi nous on ne part pas du Gabon? On aurait pu vivre en France, aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on a vu, le futur du Gabon. C'est pas grave. Damas, on a vu le futur du Gabon. On a vu le futur du Gabon. C'est le futur du Gabon qui nous permet de dire, contrairement aux gens, on va encore faire comment? Nous, on dit on va faire autrement. Nous, on dit que c'est possible de faire différemment. Parce qu'on a vu le futur du Gabon. Il faut être un visionnaire pour pouvoir commencer quelque chose là où tout semble être mort. Il faut avoir une vision pour pouvoir dire aujourd'hui on est tel, mais dans quelque temps on sera beaucoup plus nombreux. Il faut avoir une vision. Il faut être un homme de foi. Il faut être un homme qui connaît, une femme qui connaît, qui a eu accès au mystère divin. Quand je regarde quelqu'un, je ne cherche pas à regarder la personne selon ce qu'elle est ou selon ce qu'elle a été. Quand je me parle à des gens, quand je me connecte aux gens, je cherche à voir leur futur. Je bâtis mes relations, je choisis les gens avec lesquels je marche sur la base du futur. Pas sur la base du présent. Sur la base du futur. Je prophétise sur la base du futur. Ça ne m'intéresse pas ton passé, même si c'est important pour toi parfois de bâtir la foi. Ce qui m'intéresse dans ton passé, c'est ce qui peut bloquer ton futur. C'est ça que je veux casser. Mais si j'ai vu ton futur, qu'est-ce que... Ça me... Pierre renie Jésus trois fois. Trois fois. Jésus lui-même a dit, enfin on en a parlé récemment, Jésus lui-même dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Pierre n'a pas renié Jésus une fois. À trois reprises. Et deux de ces fois, ou une de ces fois, c'était devant une petite fille. Pierre dit, je jure sur la tombe de mon grand-père. Parce qu'avec des imprécations, c'est ce que la Bible dit. Il a juré. Je jure, trois doigts au ciel, si je mens, je vais en enfer. Je ne connais pas cet homme. après avoir renié Jésus trois fois. Ah, est-ce que je dois vous dire ça? Après avoir renié Jésus trois fois, la Bible dit que le coq va chanter. Quand le coq chante, Pierre se souvient que Jésus lui avait dit, tu me renieras trois fois. Ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Satan a désiré vous cribler comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre disait, non, moi jamais je peux te renier, je mourrai avec toi. Quand le coq finit de chanter, Pierre se souvient qu'il vient de trahir Jésus et que Jésus le lui avait dit. Gloire à Dieu. Parce qu'après le chant du coq, il a vu les yeux de Jésus. Je vais vous dire ça. C'est moi qui prêche d'abord. Pierre trahit Jésus, renie Jésus trois fois, hors du temple. Mais alors qu'il finit de trahir Jésus, il voit Jésus. Et la Bible dit que son cœur va être rempli d'amertume, de douleur. Judas trahit Jésus une fois. Quand Judas est pris de remords, il rentre dans l'église. Il rentre dans la synagogue. Dans la synagogue, il dit aux gens qu'il avait envoyés trahir Jésus. Je ne veux plus de votre argent. Reprenez votre argent. Les gens qui l'ont envoyé disent, on ne peut pas reprendre l'argent, c'est l'argent du sang. Il n'y a pas de rédemption pour toi.
Hey, my God. Jesus.
Tu es foutu, tu es mort. La Bible dit que Judas va laisser l'argent dans le temple, il va sortir et il va aller se pendre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Est-il possible que Pierre ne se soit pas pendu? Parce que quoi qu'ayant trahi Jésus dehors, il a vu Jésus dehors. Et que Judas se soit pendu, parce que quoi que rentrant dans l'église, Jésus n'était pas dans l'église. Ah, ah. Ça veut dire qu'en réalité, à chaque fois que quelqu'un rentre dans l'église, mais au lieu de voir les yeux d'amour de Jésus, il voit les yeux accusateurs des pharisiens. On emmène quelqu'un à se pendre. Ah, parfois Jésus n'est pas dans l'église, il est dehors. Ah, parfois Jésus n'est pas dans la synagogue, Jésus est dehors. Il y a plus d'amour pour les gens dehors que dans l'église. Dans l'église, quand quelqu'un pêche, on le crucifie, on met un terme à sa vie. Mais dehors, les gens te disent, c'est pas grave, tu es un homme, relève-toi. Que Dieu nous aide à remettre Jésus au centre de nos maisons, de nos églises, de telle sorte que ce soit les yeux de Jésus que les pécheurs voient dans le temple.
C'est l'évangile.
Projet de paix et non de malheur, afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. Question que je me suis posée, c'est comment connaître les projets de Dieu pour soi. J'ai mis deux choses que je veux dire, ensuite on va avancer, il me reste quelques minutes. La prière et le jeûne sont importants parce que la prière vous permet, la prière et le jeûne, l'association de la prière et le jeûne vous permettent d'affaiblir votre chair et d'élever votre esprit. Quand vous jeûnez, vous affaiblissez votre chair. Quand vous priez, vous élevez votre esprit. Et Dieu ne parle pas à la chair. Dieu parle à l'esprit. Écoutez-moi. Il y a un texte que vous avez dans vos Bibles. Et Dieu aide-moi. Il y a un texte que vous avez dans vos Bibles qu'on a beaucoup cité quand j'étais plus jeune et que j'ai lu différemment quand j'ai grandi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On m'a dit, Michel, il faut veiller et prier. Faut prier, faut veiller, faut prier, faut prier. Parce que ta chair est faible. Et si tu ne pries pas, tu vas prendre la femme d'autrui. Tu vas pécher. Mais sauf que ce texte, dans son contexte, ne parle pas des péchés de la chair visible. Ça ne parle pas de l'alcool. Ça ne parle pas du tabac. Ça ne parle pas de la sexualité en mariage. Ça ne parle pas de la cupidité. Jésus, sa tentation, ce n'était pas de prendre la femme de quelqu'un. Ce n'était pas de boire. Ce n'était pas de fumer. La tentation que Jésus allait avoir et la raison pour laquelle il a dit à ses disciples « Veillez et priez », c'est parce qu'il allait tenter de ne pas faire la volonté de son Père. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Mon frère, c'est le seul moment quand on lit la Bible où on voit Jésus dire à quelqu'un, priez avec moi, priez pour moi. C'est le seul texte dans les Saintes Écritures où vous verrez Jésus demander de l'aide dans la prière. Et il ne la demande pas à tous ses disciples, il la demande aux disciples qui étaient les plus proches de lui, Pierre, Jacques et Jean. Mon âme est triste jusqu'à la mort, priez pour moi. Si Jésus demande de l'aide dans la prière, Jésus le Fils de Dieu, quand Jésus guérit un malade, c'est une parole. Jésus chasse un démon, c'est une parole. Jésus ressuscite un mort, c'est une parole. Mais quand Jésus doit prier pour que la volonté de son Père s'impose à la sienne, Jésus prie trois fois à trois reprises. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Une fois. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Deux fois. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus se lève, il va voir ses disciples dorment. Il dit, les gars, vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Il repart dans la prière. Père, s'il est possible, s'il te plaît, pardon, Kokolo, Yako. Éloigne ta volonté de moi. Pardon, je ne veux pas mourir. Je veux faire ta volonté, mais je ne veux pas mourir. Est-ce que c'est possible qu'on ne me frappe pas comme on va me frapper? Est-ce que c'est possible qu'on ne me lacère pas le dos comme on va le lacérer? Est-ce que c'est possible qu'on ne me cloue pas comme on va me clouer? Ça, c'est ma volonté, mais toutefois, oh Dieu, Père, pas ma volonté, mais la tienne. La Bible dit qu'il prie comme ça pendant trois fois. Il repart voir ses disciples une autre fois, les gars d'hommes. Il dit, les gars, soyez sérieux. Est-ce que vous ne pouvez pas me soutenir pendant une heure? Il repart dans la prière. Écoutez, si vous voyez Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, prier avec autant d'instance, autant de ferveur, pour imposer la volonté du Père sur la sienne, c'est que les amis, pour faire la volonté de Dieu, il faut prier. C'est beaucoup plus facile de faire sa propre volonté que de faire la volonté du Père. Et si tu ne pries pas, tu ne pourras pas faire la volonté du Père parce que ta chair ne veut pas faire sa volonté. On a une église aujourd'hui qui ne comprend pas que la prière, ce n'est pas un acte religieux. La prière, c'est un acte de survie. On prie parce qu'on veut mourir dans notre chair, mais on veut vivre dans l'esprit. On veut vivre à la volonté de Dieu et mourir à notre propre volonté. Et si je ne prie pas, je sais que quand je serai face à ma volonté, le choix entre le Père et moi, je me choisirai. Combien de fois à l'église, on a des gens, vous avez entendu un super message, mais parce que vous n'avez aucune base de prière, aucune vie de prière. Au bureau, j'ai des gens, peut-être pas chez toi, moi j'ai des gens. Le message, on finit le culte. Le culte est super. Dehors, dès qu'ils sortent, ils se prennent la tête, ils veulent se battre. À la fin du culte. Pourquoi? Parce que c'est possible d'entendre et de ne pas recevoir. C'est possible que ce que tu entends ne rentre pas en toi. Et que tu dois te battre dans la prière pour imposer la volonté du Père. Prière et jeûne, la deuxième chose, la deuxième clé. Pour pouvoir connaître la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu. Parce que car je connais les projets, un autre texte, une autre version dit car je connais les pensées que j'ai pensées sur vous. Pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître les projets de Dieu, il faut penser la pensée de Dieu après lui. Penser la pensée de Dieu après lui. Voici ce que vos Bibles disent dans Romains, je ne vous donne pas la référence, vous allez chercher. Romains, l'apôtre Paul dit ceci, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Philippiens 2:5, ayant en vous les pensées, les sentiments qui étaient en Christ Jésus, qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même, qui a pris la forme d'un serviteur et qui n'a pas aimé sa vie jusqu'à craindre la mort. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vais vous dire quelque chose que je gardais pour d'autres, mais je vais vous le donner parce que je vous aime bien. J'aime le docteur Luc et son épouse. Donc je vais vous donner. C'est ce que la Bible dit. Celui qui s'abaisse sera... Arrêtez ça, vous connaissez la Bible. Damas, ne me traitez pas comme ici, pardon. Celui qui s'abaisse sera...
élevé.
Celui qui s'élève sera...
abaissé.
Ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, Michel, tu as le choix. Soit, parce que le texte dit, celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera... Tu ne peux pas t'abaisser et t'élever. Tu ne peux pas t'élever et t'abaisser. tu ne peux choisir qu'une seule chose. Soit tu t'abaisses, soit tu t'élèves. Suivez-moi. Quand tu t'abaisses, ce n'est pas toi-même qui t'élèves. On t'élève. Mais quand tu choisis de t'élever, on t'abaisse. Ça veut dire que la responsabilité de mon élévation n'est pas sur moi si je décide de m'abaisser. La responsabilité de mon abaissement est sur moi. Mais la responsabilité de mon élévation n'est pas sur moi. Oh, Dieu va m'aider à vous dire ça. Il est venu, il a choisi la dernière place. Il s'est abaissé. Il aurait pu venir et dire, dites au docteur Luc que moi je suis le prophète Emery. Quand il allait venir, il courait le risque de dire, il n'y a plus de place, on l'aurait abaissé. Mais quand toi-même tu choisis de t'abaisser, la résultante, la conséquence, c'est qu'on t'élève. Oh Dieu. Vous dépensez votre énergie à être élevé. Le problème, c'est que l'énergie que vous dépensez pour votre élévation va être changée en abaissement. Donc vous aurez travaillé cadeau. Mais si vous dépensez votre énergie à vous abaisser, Dieu va vous élever.
C'était À la découverte de soi, le podcast d'enseignement de l'évêque Michel Ambourouet. Nous vous encourageons à utiliser chacune des ressources que vous avez trouvées dans cet épisode. Rendez-vous sur michelambourouet.com pour découvrir d'autres prédications et des enseignements de sagesse. À la découverte de soi, un podcast MA Organisation.